pour investir, le déchiffrage.
Nos déchiffreurs qui vous nous racontez qu'il faut avoir les nerfs solides en ce moment pour expliquer jour après jour ce qui se passe, les réactions de marché à ses clients. C'est pas simple, hein. Géraldine Métifeux est avec nous. Bonjour Géraldine.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue, associée gérante chez Alter Egal. Et puis Bastien Baron qui est avec nous. Bonjour Bastien.
Bonjour
bienvenue.
Guillaume.
Fondateur de Justae. Comment on gère ces fluctuations de marché? Qu'est-ce qu'on explique tous les jours à ses clients, Géraldine? Je crois que vous embarquez un petit peu dans vos secrets de fabrication du moment là, finalement.
Exactement. Ce qu'on explique d'abord, c'est que c'est pas complètement une énorme surprise d'avoir des mouvements de marché assez violents, même si la cause, la cause immédiate qu'on peut identifier comme étant la troisième guerre du Golfe, hein, ou la guerre en Iran, peu importe comment on l'appelle, ça c'est relativement récent, inédit. Donc, on a des clients qui sont même assez habitués aux crises récurrentes. On a eu la guerre en Ukraine, auparavant on a eu Covid, on a eu d'autres problématiques. Ce qu'il faut dire en ce moment, c'est qu'il faut tenir bon. C'est-à-dire que quand on a pris une décision qui est de rester sur les marchés ou dans de liquider, c'est de tenir cette décision jusqu'au seuil qu'on s'était nous-mêmes fixé.
Oui.
On avait beaucoup sécurisé nos clients, c'était mis plutôt sur des fonds d'arbitrage obligataires. Alors, certains fonctionnent bien, d'autres fonctionnent un peu moins bien. C'est un peu l'intérêt de la diversification et d'avoir plusieurs gérants. C'est-à-dire qu'on n'est pas au casino, on ne va pas tout mettre sur le rouge en espérant que ça fonctionne. On est sur une gestion long terme, patrimoniale. Et les nouvelles donnes de l'inflation sont parfois à l'avantage sur certains de nos arbitrages.
On va y venir dans un instant.
On va y venir après. Ouais. Et certains, un peu moins. Voilà ce qu'on peut dire. Et pour les clients qu'on souhaitait rester, bon, le premier trimestre est très, très chahuté, mais on ne s'en tire pas si mal. Le début de trimestre, là, depuis ce matin, est exceptionnel.
Oui,
il est encore temps, vraiment, de pouvoir peut-être faire quelques arbitrages, le cas échéant. Mais on essaye d'avoir une longueur de vue.
Pour les clients qui ont voulu rester, il y a beaucoup qui sont partis ou pas?
On en a beaucoup. Ah oui, nous, notre taux d'exposition sur le portefeuille global, sans transpariser les fonds, on va être aux alentours des 11-12% d'actions. Donc on est, on a beaucoup sécurisé. Alors peut-être trop, hein, vous me direz, Guillaume, mais enfin bon, comme je dis souvent, c'est compliqué de sécuriser trop tard. Donc on a fait ce choix-là. Et l'obligataire délivre quand même un peu de rendement. Donc c'est pas complètement nul. Puis on a quelques structurés. Alors certains qui fonctionnent très bien, d'autres un peu moins bien. Donc on essaie d'équilibrer tout ça, mais en tout cas, on est très présent, on est à l'écoute.
Si je vous demande vos secrets de fabrication, en deux mots, du coup, votre côté, Bastien.
Les sujets, c'est toujours les mêmes, en fait. C'est que.
Qu'est-ce qu'on dit aux clients, quoi?
En fait, on a toujours des approches long terme. La partie géopolitique, c'est souvent des épiphénomènes, finalement, qui, sur des durées assez longues, ont assez peu d'impact. On voit que la partie business, en fait, reprend ses droits à chaque fois. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Finalement, les belles sociétés qui ont des fondamentaux, elles arrivent, en fait, à passer ces caps-là. Le sujet, on va dire, les gens réellement qui perdent de l'argent sur le marché actions, il y en a, pour nous, il n'y en a que deux. Il y a ceux, en fait, qui ont pris un risque trop important par rapport à ce qu'ils sont capables de supporter et qui vont vendre à un moment donné. Et les autres, c'est ceux qui n'ont pas respecté un certain horizon, en fait, d'investissement et que potentiellement, qui ont placé de l'argent sur le marché actions sur des horizons très courts et qui sont obligés de céder à un moment donné.
Ouais.
En dehors de ça, les gens qui sont plutôt bien accompagnés, et on est plutôt dans des phases où. Alors nous, on ne sécurise pas forcément.
On a sécurisé, hein, Bastien, je ne sécurise plus là.
Ouais, non, mais tout à fait, non, mais nous, on n'est pas trop en mode de sécuriser, mais en amont, quand on estime que les marchés sont hauts, on est plutôt dans un mode où d'essayer, quand il y a des baisses qui sont assez importantes, qu'on n'a pas forcément vécues finalement aujourd'hui, elles n'ont pas été très importantes, hein, sur le conflit, quand on arrive à moins 15, moins 20%, donc finalement, on va renforcer le marché action et ressortir X, si les clients ont au moins 18 mois d'horizon encore devant eux, on va réduire par la suite.
CAC 40 qui a perdu là 8,9% sur le mois de mars, c'est la plus forte baisse mensuelle depuis 6 ans.
Ouais.
Bah, c'est pas fait les calculs 2026, ça nous ramène
c'était
au Covid.
Voilà,
aux premières semaines du Covid où ça avait été
catastrophe.
On parlait de l'inflation, on va parler de l'inflation dans un instant. Juste question, parce que dans la lignée de la première question que je vous posais, c'est est-ce que vous expliquez désormais à vos clients, à moins que ça soit déjà intégré pour eux, que de toute façon des crises internationales maintenant c'est devenu la nouvelle normalité?
Voilà. Moi je rejoins assez.
Allez-y.
Je rejoins Sébastien, c'est-à-dire que je ne pense pas que la crise boursière, elle naît rarement. Elle peut naître d'un événement exogène type le risque géopolitique, mais il est souvent lié à un cycle de marché aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des marchés qui ont parfois besoin de souffler, un bon prétexte, n'importe lequel fonctionne. Là, la différence, c'est vrai que ça peut impacter des chaînes, comme le Covid a pu impacter des chaînes d'approvisionnement, donc peut avoir une réalité économique à un moment ou à un autre. Ça peut impacter également des prix. Et donc des marges, et ainsi de suite. Donc il peut y avoir des épiphénomènes comme ça qui ont des impacts durablement. Mais au global, les crises boursières, parfois, sont assez indépendantes de tout cela. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'ils feront des stratégies pour des termes assez longs. Alors, c'est vrai qu'on peut décider de ne pas trop bouger. Nous, on sait que d'expérience, nos clients ne supportent pas très, très bien les grosses baisses de 20%.
Oui.
rapport à une boîte qui a 21 ans, maintenant on a un peu l'habitude.
Donc ça s'entend, oui. Ça...
Moi j'aurais dit, écoutez, en 24 ans, qu'on a toujours une recovery, on peut rester, mais comme c'est pas forcément ce que les gens veulent subir, ce que je peux comprendre, oui, on préfère sécuriser et pouvoir revenir. Le problème de pouvoir revenir, c'est qu'il faut qu'on ait cette... C'est-à-dire que sur quelque chose comme le Covid, c'est pas très compliqué, parce qu'on a eu oui, deux grandes phases où on pouvait revenir. C'est-à-dire oui, qu'avril, bon,
oui, avril, oui, oui, oui,
avril, c'est-à-dire oui, juste oui, après oui, les premiers confinements, et puis septembre était des périodes assez faciles oui, pour revenir. On avait des temps assez longs pour pouvoir réinvestir. Parfois, sur certaines crises, c'est plus violent, plus court. Et si on regarde ce qui s'est passé sur les tout petits effets phénomènes de ce fameux Liberation Day de notre ami
oui,
Donald Trump,
début avril, ouais,
voilà. C'était extrêmement court, extrêmement violent. Sur 15 jours, quand on est sur des contrats d'assurance vie, même si on est avec des clients en compte-titres, sur des OPC, etc., c'est pas notre rôle d'être en intra-trading, donc c'est plus compliqué. C'est-à-dire que c'est pour ça que parfois, il faut tenir assez longuement.
Bon. Nouvelle normalité, voilà. Sachez-le, oui, il y aura une crise tous les ans maintenant. Voilà.
Ouais, ouais, tous les 3 ans.
On ne dit pas tous les ans, mais historiquement, oui, c'était tous les 3-4 ans, ah, il se passait quelque chose. Il y avait une baisse oui, de l'ordre de 15 à 20%, donc d'au moins 15 à 20%. Donc. C'est effectivement une normalité. Quand on explique aux clients qu'on va, au tout début, quand nous, on fait une allocation stratégique, on leur explique qu'il va avoir cette volatilité-là. C'est vrai que sur la partie actifs privés qui s'est énormément développée, on la voit moins parce que naturellement, c'est pas coté quotidiennement. Mais en réalité, elle est identique. C'est juste qu'on ne la cote pas. Et après, derrière, les clients, ils l'entendent. Ils sont oui, un petit peu habitués. Faut comprendre aussi, je pense, là, c'est vraiment la géopolitique. On était dans un monde qui était ultra mondialisé, donc finalement, il y avait peut-être moins de tensions entre les pays, surtout sur la partie économique. Depuis qu'on est un peu un phénomène inverse où chacun essaye d'être autosuffisant, etc., sur les certaines zones, il y a forcément des tensions qui sont accrues, et on le voit maintenant avec, on n'aurait pas imaginé qu'on pourrait avoir des tensions comme ça avec les États-Unis il y a encore 10-15 ans.
Absolument. Et il faut désormais l'intégrer. Voilà. Bien, alors un des sujets du moment, évidemment, on a vu encore les chiffres qui sont tombés hier, c'est l'inflation qui revient dans la zone euro, qui revient à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis un certain temps. Donc 1,7% en France, 1,7% ouais, en France fin avril, ouais, 2,5%
fin mars, ouais,
en mars au niveau de la zone euro. Comment vous l'avez accueilli ce chiffre
D'abord, on va voir, donc on a l'expression d'une hirondelle qui ne fait pas le printemps, oui, donc on va voir si ça fonctionne vraiment dans le temps ou pas, parce qu'il y a un effet sur le prix de l'énergie qui a quand même explosé sur oui, les 3 dernières semaines, et on voit bien la volatilité autour du baril de pétrole que vous commentez régulièrement. Bon, on va voir si ça tient. Mais effectivement, sans surprise, cette inflation de 1,7 en France, elle est beaucoup liée au prix de l'énergie. Oui. Là, un peu sur les prix de l'alimentaire.
De l'alimentaire aussi.
Et là où certains produits manufacturiers ou certains services ont beaucoup moins participé à la hausse. Donc, on va voir si tout ça est très conjoncturel ou très pérenne. Si le conflit dure, ce sera forcément un peu plus pérenne. Si le conflit ne dure pas trop, alors j'essaye de lire un peu et d'écouter ce que dit Donald Trump, mais quotidiennement, il me donne un peu le vertige, donc j'ai un peu du mal à savoir exactement la direction précise. Je sais pas si c'est demain ou dans 3 semaines, mais s'il dure, cette inflation, ça restera. Mais 1,7%, la cible BCE, c'est 2. Donc même si on est à 2,4 ou 2,5, comme Christine Lagarde l'anticipait il y a je crois, aux alentours du 18 mars, on est un peu dans les prévisions, les nouvelles prévisions. C'est là où moi je pense que les taux sont très élevés par rapport aux prévisions. J'ai l'impression qu'ils surjouent un peu, et les taux court terme notamment, je pense à l'Euribor, mais pas seulement, je trouve que ça surjoue beaucoup ce qui se passe en ce moment.
Là, c'est pas tant le niveau d'un 7, effectivement, vous le dites, on est en dessous de la cible BCE à 2%, c'est pas tant le niveau que la hausse sur un mois. Voilà, on était à 0,9 fin février, on passe à 1,7. C'est ça un petit peu qui a refroidi les ardeurs de tout le monde hier, quoi, finalement.
Non, mais ça, je peux l'entendre, mais oui, on peut pas non plus considérer que c'est une surprise. Enfin, oui, j'imagine.
Bien sûr.
Parce que personne n'est surpris. Oui. Voilà, on va voir comment ça va durer, comment ça va fonctionner. Il y a l'Union européenne là qui s'est réunie oui, pour avoir une réponse qu'on espère coordonnée. Mais au fond, face à cela, il n'y a pas non plus 50 options, quoi.
Bastien, comment vous regardez ces chiffres, vous? Est-ce que
On l'a plutôt accueilli bien. Enfin, ça a été plutôt bien accueilli. Ouais. En fait, les chiffres sont quand même assez faibles. On est toujours à 1,7, en fait, donc c'est pas vraiment un sujet. Au niveau de l'Europe, quand on décompose un petit peu comment oui, est faite l'inflation, on remarque finalement l'inflation sous-jacente. Donc, c'est hors énergie alimentaire. Hein, donc, c'est quand même les tendances les plus volatiles en même temps actuellement.
Absolument. Ouais.
Elle a baissé ouais, sur un mois.
C'est vrai.
Donc, on est passé de 2,40 en février à 2,30. Donc, ouais, la tendance, elle est assez lisible. Je pense que le vrai sujet, c'est l'énergie. Je pense que c'est des bonnes choses, en fait, qu'on ait ce genre de choc aussi en Europe, parce que sinon, on n'est pas capable de prendre de certaines décisions.
On disait déjà ça il y a 4-5 ans. Hein.
Aujourd'hui, ouais, mais on est en 2022.
On est en 2022. Là, on n'a pas tiré les enseignements, notamment de la dépendance au gaz, notamment.
Bon, ouais, là, je pense qu'il commence à y avoir quand même certains sujets qui commencent à intervenir. Sur les 1 ou 2 derniers mois, on voit quand même qu'il y a Emmanuel Macron qui relance le sujet sur le nucléaire civil.
Oui, oui,
il y a quand même Ursula von der Leyen
qui a fait son mea culpa.
Voilà, qui a fait son mea culpa en disant que potentiellement, on avait sûrement fait une erreur stratégique, en fait, de se retirer de ces sujets-là. Donc je pense qu'on est en train d'avancer et finalement que l'Europe, tant qu'il se passe pas ce genre de choc, bah, elle est pas capable de le faire. Donc c'est peut-être en fait une bonne chose pour la suite.
Ouais. En avance, c'est un peu en ordre dispersé. Non, vous avez pas l'air convaincu.
J'adorerais mais que j'adorerais en fait que l'Europe ait de la mémoire. Mais j'ai le sentiment d'avoir cette conversation en 2020 quand la démondialisation commence à s'opérer en dehors de une volonté politique, juste par nécessité. On avait l'envie d'être indépendant, d'être autonome, de machin, etc., de plus dépendre de puis arrive 22. Voilà, du coup, on rouvre les vannes à tout parce que finalement, on n'a plus l'énergie pas chère. Et donc, j'ai l'impression que par choc successif, on n'a pas cette ligne droite que nous, on plaide auprès de nos clients. Et j'ai l'impression que cette ligne directrice, elle existe moins. J'espère que ce choc-là servira réellement de leçon à l'Europe en disant, on peut être indépendant. Je vous rappelle que la France est exportatrice d'électricité.
Oui, exportatrice nette, oui.
Net.
2025, oui.
Non, mais 24 aussi, etc. Enfin, donc, on peut le faire. Hein. Je veux dire, on a les moyens en Europe de le faire. Donc, je pense qu'il faut y aller.
Moi, je pense qu'il y a un double sujet. Il y a le sujet, on va dire, géopolitique. Donc, on le voit, en fait, sur la partie énergie aujourd'hui. On l'a vu il y a 4 ans déjà avec le sujet avec la Russie. On le voit avec finalement les US qui sont très bien positionnés pour exporter leur GNL aussi. Et de l'autre côté, il y a tous les sujets IA en fait qui demandent énormément d'énergie sur lequel on est en retard. Donc là, on est un peu sur un sujet un peu couperet où finalement il y a une doublette de facteurs qui vont tous dans le même sens et on se dit en fait il y a pas le choix quoi. C'est si on fait rien, ça fonctionnera pas. Là, je crois qu'Emmanuel Macron qui est au Japon.
Pour
les sujets justement aussi. Enfin, il doit aborder ces sujets un peu nucléaires qui sont en train d'être relancés.
Oui. Absolument.
Après, ils ont un mauvais souvenir des Japonais. Hein,
Ouais, justement, c'est en train de repartir quand même.
Ça repart du côté du Japon.
Non, mais je peux comprendre qu'après un choc, tu sois moins.
Ouais, mais ça fait 15 ans déjà et pourtant ça repart au Japon. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas le choix.
On est en train de
rester factuel.
C'est le retour en grâce du nucléaire. Bon, donc en conclusion, puis après, Bastien veut quand même parler un peu de tech. Il m'a dit bon, il faut parler un petit peu d'autre chose que de l'inflation. On va parler un peu de tech. Donc la ligne directrice, ça vaut client, c'est on tient le cap pour l'instant. Voilà,
en amont. Moi, oui.
Oui,
nous c'est on tient le cap et on attendait potentiellement des baisses plus importantes pour renforcer.
Très bien.
Exactement.
On est là-dessus. Voilà pour la règle définie. Bastien, vous voulez me dire un petit mot de tech quand même. Vous avez raison, il faut parler un petit peu de ce qui se passe à côté. Ouais, la levée de fonds de Mistral, 830 millions d'euros en dette pour acheter des puces Nvidia. Ça vous a marqué ce compte.
Ouais, ça c'est intéressant, c'est la première fois déjà qu'il lève de la dette, Mistral. C'est quand même, je pense qu'il y a deux sujets qui sont assez intéressants. C'est d'une part, on voit qu'ils sont très bien positionnés sur le sujet, évidemment. Ouais. Et l'autre, en plus, c'est pour faire quelque chose en France. Ces puces, elles sont pour une ville qui est à peu près à 12 km de Paris, dont j'ai oublié le nom.
Bruyères, je sais pas quoi.
Exactement. Bruyères, exactement.
Bruyères-le-Châtel,
c'est ça.
Donc, c'est une ville très connue, là.
Ouais, donc il va, exactement. Donc c'est pour acheter, je crois, 13 000 puces Nvidia. Etc. C'est intéressant parce que potentiellement c'était aussi le collatéral du prêt. Donc là on voit quand même une puce Nvidia a quand même un pouvoir assez important. Il y a déjà aux US, ça existe déjà.
Ouais.
Il y a déjà ce genre de les gros acteurs qui font de l'infra IA sont déjà mettent déjà en collatéral ce genre de les puces, etc. Donc ça c'est intéressant. Et puis il y avait d'autres annonces qui sont passées aussi ces derniers temps que je trouvais intéressantes. C'était plus par rapport à l'immobilier en règle générale. Quand on voit, on sait que souvent, c'est quand même les US qui drive et qui sont généralement en avance sur nous, en tout cas pas en retard, on est plutôt en retard. Et là, sur les dernières semaines, il y a quand même Amazon qui a annoncé 200 milliards d'investissements dans l'IA, bon ça, c'est assez classique, qu'ils allaient supprimer 49 000 postes, assez classique aussi finalement, on va dire, dans le milieu, mais surtout qu'ils allaient, d'ici la fin de l'année, abandonner 1,3 million de mètres carrés de bureaux. Dans le monde, et ça je trouvais ça important. Par une petite idée, une idée qui était indiquée, ça représente à peu près 25 tours Montparnasse. Donc ça représente quand même des montants importants. Et on pouvait se dire, là il y a Microsoft pareil, qui a un gros campus à Redmond. Ils ont gelé on va dire la construction des 5 derniers bâtiments pour les bureaux. Donc on commence à avoir une certaine tendance qui est en train de se mettre en place. Je précise quand même, on en parlait un peu en off tout à l'heure, que pour le Prime, on est un peu moins inquiet. Je voyais Amazon dans le même temps qu'annonçait finalement qu'ils augmentaient la taille de leur bureau à Washington et à Manhattan. Donc on voit qu'il y a quand même un sujet peut-être Prime qui devrait continuer à bien se positionner. Mais je n'ai pas l'impression que dans le secteur de tout ce qui est SCPI, etc., notamment, nous on n'en propose pas à nos clients, mais qu'on en parle beaucoup en France et en Europe de manière générale. Alors que je pense que c'est un vrai sujet et que c'est en train d'arriver petit à petit ici, en Europe.
Géraldine ?
C'est ta jeunesse qui parle, Bastien, parce qu'en réalité, les CPI, pour les plus anciens, ont quand même connu bien fait bastonner, si tu veux, justement en 22. Alors, c'est à la suite de Covid, etc. Mais les baisses de prix, ben, par exemple, à Prignanal Reim, parlant à la Française, parlant à Mundi, parlant à des clients, et que je ne leur avais pas vendu, c'est un héritage, c'est pas le nôtre, de parcs dont ils ne peuvent plus se départir, parce qu'on organise des fonds de retrait, etc. etc. Donc, non, c'est déjà, on est intégré. Après, il y a des CPI récentes, jeunes, qui fonctionnent mieux, qui sont plus liquides, qui n'avaient pas trop collecté, qui n'étaient pas obligés d'acheter tout et n'importe quoi, à n'importe quel prix. Et après, un peu en charge du TGV, de faire attention, d'acheter plutôt sur les métropoles, plutôt du prime, comme tu pouvais l'indiquer. Mmh. Après, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'on puisse se confondre, parce qu'à l'inverse, Jimmy Dimon ne fait qu'annoncer partout, dès qu'il a un déplacement, dès qu'il croise quelqu'un, que c'est le retour au bureau, c'est la fin du télétravail. Donc, il y a des points, alors qui va peut-être un peu en contradiction avec le problème de se déplacer, avec le prix de l'énergie, mais globalement, et quand tu es chef d'entreprise, le télétravail, ça, on sent que c'est un peu la fin de l'ère du télétravail. Donc, je suis partagée. Maintenant, oui, il est certain que je suis pas sûr que tout le monde ait envie de revivre à la Défense ou ainsi de suite. Comme
c'est mon droit de réponse.
Oui, bien sûr.
Alors pour la fin du télétravail, je pense que c'est ton âge aussi qui parle, parce que je pense que ma génération, elle reviendra jamais à 100%
au
bureau.
Quand tu auras 15% de chômage dont tu me parlais, je peux t'assurer qu'elle ira au bureau contre lui mon bras. Forcément.
Ouais, mais je pense. Mais du coup, ça revient un peu sur le sujet. Mais on va pas en parler. Mais sujet de l'inflation, je pense que l'inflation sera pas un sujet dans quelques années, parce que finalement, moi, j'en parlais. Je pense qu'il y aura énormément de chômage dans les années qui viennent.
Quand on commencera à rationner le carburant, comme certains pays asiatiques, vous avez vu comment ça
fait
réinstaure du télétravail pour les au moins pour les fonctionnaires et dans les entreprises privées quand c'est possible. Vous dites, bah oui, effectivement, c'est un sujet qui va peut-être nous guérir.
Ouais, complètement. Mais moi, le télétravail, c'est pas forcément le sujet numéro un. Je pense qu'en fait, tout simplement, il va y avoir moins de personnes qui vont être salariées, donc il y aura besoin de moins de bureaux dans le futur. Et donc, naturellement, la valeur des bureaux aujourd'hui, dans le secteur prime, je pense que tout le monde, et on le voit en fait à Paris, dans le triangle d'or, entre guillemets,
oui.
Les prix ne baissent pas du
même
tout.
Même à la Défense.
Ouais, que ce soit mais du coup, dans le secteur.
La Défense, c'est un peu différent. Ouais, c'est différent. Il y a beaucoup d'écoles, y compris les carrières.
Ouais, mais le secteur prime à Paris, autour de Saint-Lazare, etc., ouais. Ça a vraiment changé. C'est-à-dire que les prix sont plutôt toujours à la hausse, que ce soit à l'achat ou que ce soit en location. Et par contre, on voit que autour, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que les prix ont largement baissé dans certains endroits. Et nous, on regardait pour avoir des bureaux plus grands. On nous propose des bureaux. Alors, il faut s'excentrer un petit peu, mais même il y a des endroits où on nous dit pendant 6 mois, vous ne payez rien à part les charges parce que.
Ah oui. Parce qu'il faut vendre, quoi. Il faut trouver.
Ouais, il faut louer, quoi. Il n'y a personne qui est intéressé.
Après, moi, je pense que la pyramide des âges fera le reste aussi, hein, Bastien.
Et la pyramide
des âges. Globalement, la réalité, c'est que peut-être qu'on n'aura peut-être pas autant le chômage qu'on imagine avec la pyramide des âges, je ne sais pas. Mais le retour au bureau, peut-être pas tous les bureaux. Je pense que ça fait quand même sens. Mais on verra, puisque l'avenir nous donnera raison à l'un ou l'autre.
Time will tell, comme on dit. Tiens, puisqu'il nous reste quelques secondes et vous parlez des valeurs de la tech, est-ce que vous dites le petit trou d'air qu'on a connu sur le mois de mars, notamment sur les indices américains, ça a peut-être été propice pour dégonfler un petit peu la bulle de l'IA sur les marchés. Est-ce que pour vous, c'était l'événement qu'il fallait, qui allait bien, finalement?
C'est une bonne question.
Bon timing.
Ouais, c'est une bonne question.
Ou pas, hein.
Il n'est pas si simple à répondre. Je pense qu'il y a eu différentes annonces en dehors de ça. Je pense à TurboQuant avec Alphabet qui a annoncé qu'en gros, il allait sortir des puces qui allaient être, pour faire simple, qui allaient consommer 6 fois moins, etc., pour avoir la même puissance en termes de calcul. Et tout ça, c'est en train d'arriver assez vite. Et finalement, il y a beaucoup de changements. Et on voit qu'Nvidia est extrêmement bien valorisée. Mais ce qui est logique aujourd'hui par rapport au carnet de commandes qui est complètement plein, ils sont full, et si aujourd'hui vous voulez avoir des puces Nvidia, on vous dit va falloir attendre au moins au mieux fin d'année prochaine.
Ouais.
Donc c'est assez logique, mais on peut estimer qu'il y avait peut-être effectivement une bulle, tout le monde le savait. Est-ce qu'elle est en train d'éclater ou pas, ou de se dégonfler progressivement, ça c'est un autre sujet, mais je pense qu'il y a des nouveaux acteurs en fait qui sont en train de se positionner, qui étaient moins visible que Nvidia, par exemple.
Ouais. Par la force des choses, on ne parle plus de l'IA, de la bulle de l'IA depuis un mois, forcément. Voilà.
Qui va revenir, on en parlerait sur le donné, de la consommation,
oui.
De l'énergie, ou de l'approvisionnement. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a peut-être un enjeu. C'est là où le business et la géopolitique vont se télescoper.
Ouais.
Et c'est pour ça que je pense que le business l'emportera sur la géopolitique.
Voilà, en tout cas, nous en sommes. On tient le cap. C'est votre message, en tout cas, ce matin, et on l'a bien compris. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Merci. Géraldine Métifeux, associée gérante chez Alter Egal, et puis Bastien Baron, fondateur de Justay. Merci à tous les deux. Merci. À très vite, avec plaisir, sur BFM Business.